Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, je continue la réflexion sur l'opposition entre nature et culture. C'est la première partie de mon livre « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris et toujours disponible en version papier. Une version électronique est en préparation à propos de ce livre. Donc, dans mon chapitre 1, définition, j'oppose nature et culture. Alors, je dis que la nature est essentiellement la soumission aux pulsions, le fait de se livrer, pieds et poings liés en quelque sorte, à la pulsion, à l'immédiateté de l'instant. Et la culture, au contraire, est une distance prise vis-à-vis de ces pulsions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dominer les pulsions? Eh bien, pour comprendre cette chose-là de façon très simple et peut-être amusante, je vais me servir d'un livre, d'un conte pour enfants qui s'appelle « Les trois petits cochons », et qui est commenté par Bettelheim dans sa psychanalyse des contes de fées. Alors, la signification anthropologique relativement à la culture de ce conte des trois petits cochons est très profonde. En effet, vous connaissez l'histoire, les deux premiers cochons ne songent qu'à gambader, à folâtrer, et ils n'ont pas le temps de construire une maison solide. Le résultat, c'est que le loup les a dévorés. Comprenez qu'ils ont été submergés par leurs pulsions. Quant au troisième cochon, qui a pris le temps de bâtir sa maison et qui a donc su intégrer ses frustrations, il a bâti une maison solide, et le loup n'a pas pu la démolir. Comprenez que ce troisième cochon s'est édifié une personnalité solide, bien structurée, non dévorable. Alors le troisième cochon venge ses frères, et l'enfant lecteur, qui s'identifie naturellement avec ce cochon-là, oublie aisément la mort des deux premiers. Je sais bien qu'il y a une version édulcorée de ce texte qui nous dit que les deux premiers cochons se réfugient dans la maison du troisième et ne sont pas dévorés. Bon, en fait, le problème, il est très simple, c'est que l'enfant s'identifie toujours à un protagoniste du conte. Alors, à qui va-t-il s'identifier? Alors, espérons qu'il ne s'identifierait pas au loup, car il s'agirait d'un enfant pervers, Bon, mais il va s'identifier au troisième cochon qui est plus malin, plus astucieux. Donc l'enfant va oublier naturellement la mort des deux premiers cochons. Et il va tirer de cette histoire beaucoup plus de courage et de désir d'être à l'avenir beaucoup plus qu'un paquet de pulsions qu'il n'en retire par exemple de la fable « La cigale et la fourmi ». La fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi a une donnée analogue. Il faut travailler, on ne peut pas toujours s'amuser. Mais le résultat chez La Fontaine est bien plus tragique et pour l'enfant peut-être plus choquant, car non seulement la fourmi refuse d'aider la cigale, mais en plus elle la raille dans son refus. Vous voyez ? Donc on dit que la fable de La Fontaine est pour les enfants, il faudrait quand même que l'enfant ici soit éclairé par son instituteur ou son éducateur, qui lui montre l'égoïsme inadmissible de la fourmi, et qu'il va se plaindre un peu la pauvre cigale quand même. Donc je dirais que la leçon des trois petits cochons est moins traumatisante, moins tragique que celle de la cigale et la fourmi, mais la donnée est la même, c'est-à-dire que dans la vie, pour se solidifier, il faut dominer ses pulsions. Alors il y a bien d'autres exemples de la submersion d'un être humain par ses propres pulsions. Pour n'en citer qu'un, je pense au sort du chasseur Actéon, qui fut changé en cerf par Artémis ou Diane, parce qu'il avait surpris Diane ou Artémis au bain, toute nue donc. Alors elle fut Diane a changé Actéon en cerf, et il a été dévoré par ses propres chiens. Je dirais que les chiens sont l'image des propres pulsions d'Actéon, vous voyez, comme justement la dévoration par le loup dans le cas du conte pour enfants. Alors cette histoire d'Actéon est racontée par le poète latin Ovide dans ses Métamorphoses, au livre 3, au vers 138 jusqu'à 252. Donc, Freud a appelé ça, en allemand S, le monde pulsionnel. Et il appelait moi la personnalité qui doit se construire et se solidifier autour du surmoi ou de l'idéal du moi, qui sont les modèles de la culture. Alors, si on prend la problématique de Jung, les mots sont différents. Pour le ça, Jung parlerait de l'ombre. Pour le surmoi, il parlerait de persona ou de masque social. Donc, le ça attire l'homme vers le principe de plaisir, qui est le principe de la nature. En effet, comme le dit le poète latin Virgile dans ses églogues, ou bucoliques, au livre 2, au vers 65, « Trahit soi quamque voluptas », c'est-à-dire « chacun est entraîné par son plaisir ». Donc, heureusement qu'il y a le surmoi, ou idéal du moi, qui doit modeler le moi selon les exigences du principe de réalité. Et le processus psychologique, celui-là même qui est à l'œuvre dans la construction d'une culture, c'est l'édification d'une personnalité solide, stable et forte, capable de s'auto-réprimer pour acquérir de la force et de la durée. En d'autres termes, et comme le dit Freud, là où est le ça, faire advenir le moi. Et c'est bien là ce qui se voit dans l'histoire des trois petits cochons, ainsi que dans son commentaire Barbetelheim. Alors Valérie, dans une essentielle préface aux lettres persanes de Montesquieu, que l'on trouve dans Variété, dit en substance que la nature ne connaît que les faits, qu'elle ne juge pas. Et précisément, la barbarie, ou la soumission absolue à la nature, pourrait se définir par l'ère du fait, et la domination du fait. Mais ensuite, au monde des faits, la nature va imposer un ordre, qui est l'ordre discipliné des sacrifices consentis. Et dès lors, les perspectives anticipées et imaginaires du futur restreignent celles qui sont bien tangibles pourtant du présent. Nous avons vu ça dans la dernière émission. Nous avons parlé du sens du futur et du rôle du langage, un rôle de lieutenance. Le langage tient lieu par les représentations qu'il permet des choses elles-mêmes. Donc la culture est basée sur un sacrifice. Peut-être, comme le disait le sociologue Georges Bataille, est-elle toujours même un sacrifice. Alors il est bien vrai que psychologiquement, on se construit parfois par le renoncement. Goethe disait « meurs et deviens ». Mais ce thème déjà est essentiel pour comprendre la genèse de toute culture, et il est développé dans l'Évangile. Par exemple, on lit en Jean, chapitre 12, verset 24, « Si le grain ne meurt, il ne porte aucun fruit », vous voyez. Et en Matthieu, chapitre 16, verset 25, « Quiconque veut sauver sa vie la perdra, quiconque veut la perdre la sauvera », vous voyez. Alors, je sais bien que on peut distinguer ici le simple renoncement à l'ego qui serait en question, et cela recèle une profonde vérité psychologique et spirituelle, et distinguer ce renoncement à l'ego du sacrifice total de soi-même. Malheureusement, chez nous, on confond souvent les deux perspectives. Et certains, en voyant justement cette idée sacrificielle dans la nature comme constitutive, ont objecté que la frustration peut affaiblir au lieu de fortifier. Et la culture tout entière a été considérée par certains comme engendrant une gigantesque névrose. C'est un point essentiel qu'il ne faut pas oublier. Pensez par exemple à malaise dans la civilisation de Freud, ou bien aux thèses de Wilhelm Reich sur l'éducation vue comme une éducastration, disait-il, dans la révolution sexuelle. À leur illustration, par exemple, dans le texte de Fritz Zorn intitulé « Mars », nous y reviendrons, ou bien par un livre comme « L'exil intérieur » de Roland Jacquard, le sous-titre en est « Schizoïdie et civilisation ». Alors il est certain que trop de frustration, trop de sacrifices peut exténuer la vie dans l'individu, peut le rendre psychasthénique. Et théologiquement aussi, comme je l'ai dit à l'instant, la notion de sacrifice, s'il s'agit du sacrifice total de la vie et non pas du renoncement au simple petit moi, à l'ego, cette notion de sacrifice peut être vue comme fort problématique. Cependant, il ne faut pas oublier non plus que le but du sacrifice ou de la frustration acceptée peut aussi être l'inverse de celui auquel on pense habituellement, non pas la suppression des désirs, mais leur exacerbation. Je peux, comme le dit Gide dans les nourritures terrestres, différer la satisfaction d'un désir, non pas parce que sa satisfaction serait en elle-même dommageable, mais pour augmenter le plaisir de cette satisfaction, qui sera accrue elle-même par les délais de l'attente. Je prends un exemple concret. Supposons que j'ai soif et qu'un verre d'eau fraîche soit à portée de ma main. Je peux tendre la main et boire tout de suite. Mais si j'attends un peu pour boire le verre d'eau fraîche, j'en retirerai plus de plaisir. Je peux aussi, comme le disait Montaigne, me faire éveiller exprès pour jouir davantage des plaisirs du sommeil, etc., etc. Donc il y aurait là une attitude hautement raffinée qui consisterait dans la vie à savoir attendre et s'imposer des privations dans un but strictement hédoniste, pour mieux profiter des plaisirs. Et donc on pourrait dire de la culture, ce qu'on dit de l'art, que c'est l'homme ajouté à la nature, homo additus naturae, comme on disait en latin. Donc vous voyez que le sacrifice n'a pas que des côtés négatifs, il peut avoir des côtés positifs, mais je répète que je me situe dans une perspective non pas morale ou moralisatrice, mais une perspective, je dirais, dont j'ai dit hédoniste, c'est-à-dire qu'en est-il du plaisir, justement, ne peut-il pas être augmenté par une non-satisfaction, non pas générale, hein, mais provisoire, temporaire. Voilà, alors nous opposons dans cette série d'émissions la nature à la culture. La nature, c'est le règne du fait, hein, les faits, elle ne connaît que les faits, et la culture, c'est le règne des normes. Hein. Alors, considérons maintenant la vie des hommes entre eux, la vie collective. Là encore, la nature ne connaît que le monde du fait, plus précisément celui du fait accompli. C'est-à-dire l'ascendant de la puissance, la loi de la force. Vous voyez, seul survit dans la nature le mieux adapté au terme d'une lutte sans merci, d'un combat ou d'une compétition, ce que Darwin a appelé la lutte pour la vie, struggle for life. Vous voyez, le combat, la guerre, disait Héraclite, est le père de tout. Polémos, pater, panton, polémos, la guerre, hein. La nature, en général, ignore la bonté ou la compassion pour les plus faibles. Historiquement, on les voit apparaître, par exemple, et peut-être pour la première fois dans l'histoire des hommes, chez les prophètes juifs, vous voyez. Bon, alors je sais bien qu'on parle de l'empathie éprouvée par les animaux. Je suis tout à fait ouvert à ces considérations. Mais je pense qu'il suffit d'observer la nature pour voir qu'il s'agit en son sein d'un grand massacre. Et la nature humaine elle-même n'est pas spontanément portée vers l'altruisme et l'entraide. Regardez par exemple le comportement des enfants. La Fontaine dit dans Les deux pigeons à propos des enfants, cet âge est sans pitié. Et Victor Hugo, dans un poème appelé Le crapaud, dans La légende des siècles, nous dit, l'enfant rit quand il tue. Alors, le fait que les enfants ont ordinairement des souffres-douleurs, voyez les cours d'école par exemple, fait justice de l'idée naïve d'une âme enfantine sans agressivité. Freud baptisait l'enfant un pervers polymorphe, vous voyez, et cette méchanceté foncière, constitutive de la nature humaine, elle-même, hein, elle est visible dans l'âme enfantine, elle est peut-être ce qu'exprime le dogme chrétien du péché originel, qui par là, comme le disait Carl Gustav Jung, recèlerait une très profonde vérité psychologique. Il n'y a pas de bonté naturelle, ni hors de l'homme, ni en l'homme lui-même. Voyez le livre de William Golding, Sa Majesté des Mouches, qui fait justice, justement, de cette bonté naturelle que nous devons peut-être à Rousseau, hein, dont nous devons l'idée à Rousseau. Alors, je sais bien qu'on peut tirer du spectacle de la nature l'idée d'un bon fonctionnement ou d'une intelligence, hein, ça c'est sûr. Il y a au sein de la nature des équilibrages constants qui se font, qui sont biologiques, écologiques, etc. Par exemple, si vous enlevez les brochets d'une rivière, la faune va bientôt dégénérer, car le rôle du brochet est précisément d'empêcher cette dégénérescence en mangeant les poissons invalides, traînards, affaiblis, etc. Hein. Mais à l'évidence, si ce mécanisme de sélection naturelle fonctionne bien, aucune règle morale, aucune norme dans la nature n'est lisible. En fait, la nature se dévore elle-même. Elle est autophage, vous voyez. Victor Hugo le disait très bien. Le monde est un spectacle où le meurtre fourmille et la création se dévore en famille. Et c'est sûrement cette indifférence de la nature qui a suscité en réaction l'effort de réforme, ou de réformation si vous voulez, de toutes les cultures, le désir d'ordre, de compensation, etc. Est-ce que la nature est pitoyable vis-à-vis des hommes? Est-ce qu'elle éprouve de la pitié vis-à-vis des hommes? Certains romantiques l'ont cru, ont voulu le croire, comme Lamartine par exemple. Mais la nature est là qui t'invite et qui t'aime, plonge-toi dans son sein qu'elle t'ouvre toujours, etc. Mais à mon avis, plus lucide est la vision d'une nature sans compassion. La vision de Vigny, par exemple, dans La Maison du Berger. Il fait parler de la nature, c'est une prosopopée, hein, et la nature dit « On me dit une mère et je suis une tombe ». En effet, dans la nature, toujours le prestige et la domination acceptée du plus fort, l'adhésion et l'entraînement du maître ont été la loi. Hein. La nature nous dit « Vae victis, malheur au vaincu hein. ». La Fontaine dit à la fin du Loup et l'Agneau, hein, dans le Loup et l'Agneau, « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Nous l'avons montré tout à l'heure, me semble-t-il. Hein, voyez. La raison du plus fort. Alors voici se dessiner un point essentiel. Ni l'acceptation personnelle d'un sacrifice ou d'une frustration, ni la prise en compte au sein d'un groupe des droits du plus faible n'ont une origine naturelle. Bon, ces phénomènes supposent sans doute un changement de plan, un dépassement de l'ordre immédiat des faits qui sont jugés au nom de normes, de règles ou de valeurs qui ne peuvent pas en être déduits. Si la nature se définit par l'être, la culture se caractérise par un devoir-être. Hein. J'ai dit qu'elle était réformation de la nature, et aussi, alors je dirais, comme religion et église pour les protestants réformés, la nature est toujours à réformer. Semper reformanda. Hein. Voyez, et là est le rôle de la culture, un rôle de compensation. Alors vous voyez que nature et culture s'opposent dans l'homme et dans les groupes d'hommes comme s'opposent les instincts et les idéaux, les faits bruts et les buts réfléchis, les désirs de réalités immédiates d'une part et d'autre part les mécanismes de frustration définis en croyances, en fiction, en dispositifs irréels ou en perspectives inventées. Ces dispositifs et ces perspectives instaurent un autre monde que celui des satisfactions instantanées et qui est proprement le monde de la culture. Alors essayons maintenant de commencer à y voir de plus près, d'explorer ce monde plus avant, à l'intérieur de chacun, de chaque individu et de chaque groupe, vous voyez, chaque groupe social. Alors, je vais insister sur la différence entre le monde réel et les mondes imaginaires. La nature, c'est un monde réel, et au monde réel de la nature s'opposent ce que j'appellerais les forces fictives, c'est-à-dire les perspectives imaginaires de la culture, de la même façon qu'aux tendances instinctives ou pulsionnelles, ou bien comme on dit hormik, H-O-R-M-I, etc., du grec hormé qui veut dire la pulsion, hein, comme s'opposent à ces tendances et à ces dispositions, hein, les valeurs réfléchies. En effet, c'est la pulsion qui est la donnée naturelle de base. La faim, la soif sont des choses naturelles. Mais qu'en est-il, par exemple, de la grève de la faim? Ce n'est absolument pas naturel, hein, car là, on change d'ordre. Quelque chose d'autre est attesté. Le désir, quand on fait la grève de la faim, d'une liberté, d'une dignité, le refus de se laisser piétiner, humilier, voyez. Est-ce qu'un animal peut faire la grève de la faim, hein? Bon, on dit par exemple qu'un chien peut se laisser mourir de faim lorsque son maître est mort. C'est possible, mais y a-t-il représentation là, hein? Est-ce qu'il y a ce désir de dignité dont je viens de parler? Prenez la fable de La Fontaine, le loup et le chien. Hein? Eh bien, cette fable oppose le monde de la nature, qui nous commande de manger quand on a faim, hein, qui est celui de la satisfaction recherchée et du bonheur. Hein? C'est la part, si vous voulez, du chien. Le bonheur étant pris au sens de bien-être, bien sûr. Et de l'autre côté, vous avez l'idéal ou l'honneur qui est incarné par le loup. Alors vous connaissez l'histoire, le loup voit un chien gras, il le suit pensant avoir le même sort que lui, et puis chemin faisant, il voit autour du cou du chien une marque, le cou du chien est pelé. Qu'est-ce cela, dit-il, ce n'est rien, dit le chien, mais le loup insiste, si, dites-moi ce que c'est. Alors le chien dit, mais le collier où je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause, vous voyez. Attaché, lui dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez. Et non, dit le chien, bien sûr je suis nourri, dit-il, je suis gros et gras, mais je suis tenu par une laisse, par un collier. Et alors cela dit, maître loup s'enfuit et court encore, comme dit le fabuliste. Donc, il y a deux choses, le bien-être, le bonheur qu'on peut trouver dans l'esclavage, et l'honneur qui nous pousse à refuser cette situation. Donc je dirais qu'il n'y a culture que lorsque les faits naturels, satisfaire sa faim, sa soif, etc., sont jugés au nom d'une instance, une norme qui dépasse le monde des faits. Alors, fait, F-A-I-T-S, bien entendu, hein. Bon, donc si je dis que la nature est fictive, j'irai du côté des faits, F-E-S, si vous voulez, hein, bien sûr, hein. Non, reprenons sérieusement. L'histoire du loup et du chien, eh bien, me fait penser à l'épisode évangélique de la tentation de Jésus au désert, hein. La leçon, c'est que l'homme ne vit pas seulement de pain, hein. Donc c'est un dialogue, une controverse rabbinique, ce que les juifs appellent un pilpoul, hein, entre Jésus et le diable. Chacun y va de sa citation, hein. Donc le diable tente en citant l'écriture et Jésus répond en citant une autre passage de l'écriture. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, parce que le diable lui dit, je peux changer les pierres en pain, donc voilà un miracle que je peux faire pour toi. Eh bien, Jésus refuse cela, hein. Donc, c'est une opposition entre deux mondes, le monde naturel, la faim, et le monde culturel, la dignité. Et un équivalent de l'épisode de la tentation au désert, dans l'évangile, dans la mythologie grecque, serait l'apologue de Prodicos, hein, qui nous montre Héraclès au carrefour, hésitant entre le vice et la vertu. Ce sont là des scénarios instituants. Dans la dernière émission, j'ai parlé des miroirs instituants. Ici, le scénario instituant, c'est une histoire qui a une signification humaine, qui nous fait advenir au monde de l'humanité, par-delà l'animalité naturelle. L'homme est un animal, bien sûr, hein, naturellement, mais il peut être plus que cela, hein. Alors, dans cette idée de scénario instituant, je veux dire qu'il y a en l'homme autre chose que ce à quoi le pousse sa simple nature. Dans la logique de la culture, on va donc échanger une satisfaction tangible, réelle et effective contre une perspective d'un tout autre ordre qui n'a plus rien à voir avec le réel. Et cet échange est d'une terrible inégalité. Pensons par exemple à tout ce qu'implique de sacrifice pour l'immédiat, des choses comme la promesse, l'engagement, le serment prêté, etc. Donc je dirais que les mondes culturels sont des mondes symboliques, en ce sens totalement fictifs ou mythiques, par lesquels le monde réel se trouve jugé, dévalorisé ou au moins ordonné et restreint. Mais si l'on y réfléchit, la culture est toujours la victoire du non-existant sur de l'existant. Elle est un monde de l'irréel, vous voyez. Et je pense que cette idée va nous mener à réhabiliter les fictions, les mythes. C'est pour ça que tout à l'heure j'opposais aux faits, F-A-I-T-S, les faits, F-E-E-S, hein, parce que ces fictions, ces mythes, bien loin de nous faire évader dans une espèce de paradis qui ne nous concernerait pas, nous disent des choses. Nous modèle, nous montre comment nous pouvons advenir à l'humain. Hein. Ces fictions nous façonnent pour que l'homme ressemble enfin à l'homme, à ce qu'il peut être. Pascal nous dit « l'homme passe infiniment l'homme ». C'est beau ça, hein. C'est ce qu'on appelle une antanaclase, c'est-à-dire un miroitement. En stylistique, l'antanaclase, c'est le fait d'employer deux fois le même ou plusieurs fois un même mot en lui donnant chaque fois un sens différent. Par exemple, une femme est une femme, Paris sera toujours Paris, eh bien les deux occurrences n'ont pas le même sens. Hein. Une femme circonstancielle, anecdotique, sera une femme archétypale, c'est-à-dire idéale, etc. Bon, l'antanaclase est là. Alors, c'est ça, c'est le miroitement. Ça veut dire, c'est un mot grec qui veut dire miroitement, reflet visuel ou écho sonore, antanaclasis. En latin, il y aurait réverbération. Alors, l'homme passe infiniment l'homme, veut dire que l'homme naturel, justement, doit être dépassé par cet homme idéal dont les récits, les mythes, les fictions, tout ce qui est à la base des cultures nous donne une idée. Alors, nous creuserons cette idée des échanges substitutifs hein, et cette idée, justement, d'institution par les mythes lors des prochaines émissions. Pour l'instant, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous, donc, précisément, à la prochaine émission.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.